les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Jean-Charles Ducrot. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Vous dirigez Souvenirs Parfumés, autant dire que cette semaine on part au pays des senteurs d'antan.
Oui, tout à fait.
Ouais, alors, ouais. Présentez-nous votre structure Souvenirs Parfumés.
Alors, Souvenirs Parfumés, c'est une petite parfumerie artisanale avec des fragrances qui rappellent des souvenirs d'enfance et une méthode de travail assez traditionnelle. Donc, on est vraiment une petite parfumerie, rien à voir avec des parfums industriels ou des parfums de référence. Quand je dis de référence, c'est aucune fragrance a été choisie sur un catalogue. On est vraiment sur des parfums de créateurs avec des odeurs qui rappellent des souvenirs d'enfance, principalement de la ruralité et de notre région.
D'accord. On est sur des parfums d'intérieur, pour préciser pour nos auditeurs, pas des parfums que l'on peut utiliser nous, mais plutôt pour parfumer notre intérieur. Alors, vous nous parliez de souvenirs d'enfance. Est-ce que vous pourriez nous décrire certaines de vos fragrances, justement ?
Oui, alors effectivement, le projet est parti d'un retour aux sources. Donc, on a vraiment des parfums qui sont très locaux ou inspirés de la ruralité. Dans les parfums, on va avoir Douceur d'antan, qui va être un assemblage de roses et de lilas, avec un effet un petit peu Cologne. Donc on est vraiment sur le parfum de la coquetterie de nos grands-mères quand elles se préparaient le dimanche. Donc on a vraiment un assemblage de fleurs un petit peu à l'ancienne. On va avoir l'odeur du bébé, par exemple, avec les fleurs blanches poudrées. On a des fragrances qui rappellent également la nature sauvage, les bords de rivière, les bords de Loire, par exemple, avec les parterres de menthe sauvage. Donc on en a un qui s'appelle Fraîcheur d'été, la menthe sauvage et avec une pointe de citronnelle. On a 9 fragrances différentes, certaines sont un petit peu osées parce qu'elles sont vraiment très 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 particulières. On en a une qui s'appelle Balade aux escargots.
D'accord. Alors on utilise quoi pour cette fragrance là?
Alors Balade aux escargots, on est vraiment dans la symbolique, c'est la nature, il faut imaginer la pluie en été. Donc ça on l'a représenté avec du bois d'iris et puis on a assemblé le bois d'iris avec de la fleur d'acacia parce qu'il y a souvent des grands acacias quand on part à la traque des escargots. Donc voilà, c'est un parfum qui rappelle un peu l'humidité, mais l'humidité agréable, la chaleur humide, on va dire, et puis la fleur de l'acacia qui apporte un côté un peu sucré. Il est très agréable ce parfum.
Et donc dans les parfums un peu particuliers aussi, vous en avez d'autres à nous signaler ?
Oui, effectivement. Alors on a les parfums qui sont assez gourmands. Par exemple, on a une fragrance qui s'appelle Mon Roudoudou.
Ça s'appelle les souvenirs de l'enfance.
Voilà, le Roudoudou. Là, on est sur un citron sucré. Alors celui-ci plaît énormément parce qu'il a beaucoup de gourmandise. Mais l'avantage, alors je fais une petite parenthèse, l'avantage de notre fabrication artisanale, c'est qu'on a un parfum qui n'est pas du tout entêtant. Donc en fait, vous pouvez en mettre dans toutes les pièces, mais je veux dire dans la maison en général, même si votre fragrance est sucrée, ça va pas être écœurant, ça va pas être trop fort.
D'accord.
Donc on a le Roudoudou, on a aussi le parfum de la petite église de mon village qui s'appelle Le Verdre. Donc j'ai recréé le parfum de l'intérieur de l'église.
D'accord.
Donc il s'appelle Ma Petite Église.
Ma Petite Église.
Ma Petite Église. D'accord. Alors c'était un peu un pari fou. C'est vrai que quand j'ai eu cette initiative de créer le parfum de l'église, on m'a dit que c'était une démarche un peu bizarre ou un peu osée. Je me suis dit que il fallait de toute façon représenter le retour aux sources de façon globale, c'est-à-dire que l'église c'est quand même le centre du village, donc c'est un peu le monument incontournable d'un village, et puis c'était un retour dans le passé, donc il fallait un symbole aussi par rapport à cette démarche. Donc le parfum de la petite église, voilà, il était un petit peu osé, et finalement c'est une de nos meilleures ventes aujourd'hui.
Très bien. Et on retrouve donc en fait les odeurs d'encens ?
C'est ça, effectivement. Alors, on a un assemblage, c'est un peu particulier. On a l'odeur de la pierre poussiéreuse, de la bougie chaude, du camphre. Voilà, c'est tout un assemblage qui crée vraiment une atmosphère un peu particulière. Et finalement, il a énormément de personnalité, donc il est très apprécié.
Très bien. Alors voici pour la présentation effectivement des fragrances. Vous nous parliez justement de fabrication tout à fait artisanale. Comment sont fabriquées justement ces fragrances ?
Alors, on travaille étroitement avec un parfumeur de Grasse. C'est le nez en fait à Grasse qui nous crée les bases de nos parfums. Alors, on a la chance de travailler avec un très bon parfumeur. Donc, effectivement, toutes nos bases sont réglementées, sont faites de façon professionnelle. Tout est à base de fleurs. Donc, on a une base aussi qui a aussi un point de maturité. On n'est pas sur un produit qui est rempli d'anti-UV ou de produits synthétiques. Donc ça, c'est notre base. Donc moi, je descends à Grasse rencontrer le parfumeur. Je lui explique le souvenir que je veux représenter. Et puis, lui me propose des échantillons jusqu'à l'aboutissement de la fragrance au final. Ensuite, une fois qu'on a la base, on ramène cette base dans notre atelier de parfumerie à Sancoin, qui se trouve en arrière-boutique de notre boutique à Sancoin. Et à l'atelier, on fait l'assemblage. Par contre, c'est un assemblage traditionnel, artisanal. Donc, on fait l'assemblage 100% alcool. Donc, on a fait ce choix-là. On est contrôlé par la douane, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité d'alcool pur à utiliser chaque année, donc on ne sera jamais une production industrielle. J'ai fait le choix de ne pas faire des parfums justement coupés avec des produits synthétiques, des produits diluants. Je veux faire un parfum à l'ancienne, authentique, qui soit non nocif. Donc un assemblage base et alcool, tout simplement.
Base et alcool. Assemblage authentique, que donc des produits naturels et de l'alcool. Pas de synthétique, un retour aux sources.
Exactement.
Donc on vous trouve à Sancoin, oui. Et on vous trouve un peu partout dans la région. J'ai cru comprendre que vous aimez bien poser votre table dans les marchés.
Oui, exactement, c'est vrai. On est beaucoup itinérant parce qu'en fait, il faut faire connaître le produit, il faut le distribuer et puis on n'hésite pas aussi à développer l'entreprise. Donc pour la vente de nos produits, effectivement, vous pourrez les retrouver dans notre espace boutique à Sancoin et également sur les foires de la région, la foire de Moulins, la foire de Nevers qui sera le mois prochain, la foire de Bourges, le printemps de Bourges. On a tout un planning jusqu'à Noël 2024, assez chargé.
Pour trouver assez largement donc ces fragrances. Vous êtes une équipe de combien actuellement ?
Alors aujourd'hui, nous sommes trois personnes à travailler dans la parfumerie. On est en train d'espérer avoir une quatrième personne à la rentrée de septembre. On est une personne à l'atelier qui s'appelle Edwige, qui fait elle-même l'assemblage, justement, qui a été formée pour que la fabrication soit faite dans les règles, et qui nous assiste aussi à la boutique quand nous sommes en déplacement. Et puis après on commercialise, comme je le disais, par le biais de foires. On a également des distributeurs.
D'accord.
Donc on travaille aujourd'hui donc dans la région. Nous avons nos produits qui sont distribués par Intermarché Bordeaux-Loire à Nevers.
Oui.
Donc ça c'est super parce que le directeur d'Intermarché a compris un petit peu l'originalité du produit, la qualité et puis la valeur en fait que l'on représentait au niveau moral. Donc de se sentir accompagné par des distributeurs, c'est intéressant. Distributeurs locaux, donc Intermarché Bordeaux-Loire. Bricomarché aussi, Bricomarché à Sancoin, qui ont été d'ailleurs eux à l'initiative de notre réseau de distribution. Donc on les en remercie parce que vraiment sans eux on aurait eu plus de difficultés à nous développer. Donc Bricomarché à Sancoin et puis après beaucoup d'indépendants, des gîtes par exemple qui veulent aussi apporter une petite plus-value à leur activité. On a des salons d'esthétique qui achètent nos produits pour les revendre. On a pas mal de distributeurs. Ouais.
Donc finalement, on peut trouver ces souvenirs parfumés de différentes manières. Au niveau des métiers que l'on retrouve dans votre entreprise, on a des métiers classiques ou vraiment ce sont des métiers spécifiques à la parfumerie ? Est-ce que c'est transversal finalement ?
Disons que... Alors, j'ai pas, peut-être pas tout à fait...
Alors, par exemple, si on prend le cas d'Edwich,
oui.
Sa formation de base, elle vient de la parfumerie ou ça s'apprend en fait?
Alors, c'est un peu ça, oui, je comprends. Effectivement, il faut une rigueur de travail. Ça, c'est oui. certain, parce que c'est un environnement qui doit être propre, qui doit être mesuré. Mm-hmm. Donc, on a du matériel adapté, on a des conditions de travail qui sont aussi adaptées à la parfumerie. Maintenant, on n'est pas concepteur, on va dire, de la base. C'est-à-dire qu'on a la chance que notre parfumeur, lui, nous crée les bases. Donc, on va dire que tout le travail de laboratoire pour l'assemblage des fleurs et la composition, la recette, en fait, de la base, est fabriqué par notre parfumeur à Grasse.
D'accord.
Donc, finalement, ça nous enlève une très grosse étape. Et c'est à partir de cette base que nous, on fait l'assemblage, le remplissage en flacon, l'étiquetage.
D'accord. Et ensuite, on est plus sur cette partie-là. La partie purement technique parfumerie,
oui.
Elle est en réalisée à Grasse.
Oui, oui, tout à fait.
Donc c'est la garantie d'avoir en fait un professionnalisme sur cette part-là.
Exactement, exactement, c'est ça. Et aussi une traçabilité, c'est-à-dire que demain, nous, notre objectif avec cette petite parfumerie, c'est de développer notre gamme de produits. On a déjà des idées en cours et des projets en cours, notamment pour l'usage corporel.
C'est
dans les tuyaux.
Pas que la maison.
Mais le fait de travailler avec un parfumeur justement hyper réglementé va nous faire gagner du temps et forcément va donner un produit fini au consommateur sans risque, sans toxicité.
D'accord. Nous sommes donc avec Jean-Charles Ducrot pour la société Souvenir Parfumé. Jean-Charles, on va maintenant avoir une pause en musique. C'est vous qui choisissez ce que l'on va écouter.
Ben c'est gentil. J'avais proposé L'Envie.
Oui.
De Johnny Hallyday. Alors, c'est tout simplement parce que c'est une démarche de retour aux sources. Et c'est la musique, je pense, qui donne l'envie. Voilà.
Très bien. Et bien, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, pour me passer des discours, et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi.
Yeah. les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacrés à l'entreprise Souvenir Parfumé qui est basée à Sancoin. Et donc, nous avons avec nous Jean-Charles Ducrot. Jean-Charles, nous avons tout à l'heure donc parlé des fragrances, parlé de la fabrication de ces fragrances et des projets de parfums plus pour le corps. J'aimerais que sur cette deuxième partie, on parle un peu de l'actualité. Alors, je suppose que comme toutes les entreprises, et peut-être plus que certaines, je ne sais pas, vous allez nous dire, vous êtes impacté par les hausses de prix, par l'inflation. Ça donne quoi au niveau des fournisseurs sur ce secteur-là ?
Oui, tout à fait, effectivement. D'une manière générale, on s'en sort bien parce qu'on a toujours cette volonté de nous développer. Donc, on arrive à se développer, tant bien que mal. C'est-à-dire que ça demande quand même, franchement, aux chefs d'entreprise de travailler un nombre d'heures considérable et toujours de se lever du bon pied en ayant l'optimisme en soi pour pouvoir développer une petite entreprise artisanale. Donc ça, c'est déjà une mission. C'est vraiment une mission. Après, effectivement, on a les difficultés que peuvent connaître une petite entreprise, voire une TPE, quand effectivement on a une crise énergétique où on a une augmentation des fournisseurs qui va jusqu'à 60% des matières premières. Ça devient difficile d'expliquer, de fournir un produit sans justement augmenter le prix pour notre clientèle. Mm-hmm. Et donc on se retrouve dans une situation un peu difficile, ouais.
Avec cette volonté de maintenir des prix quand même cohérents, mais dans un contexte où tout augmente.
C'est ça. En fait, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que finalement, nous, on se positionne dans un produit de fabrication, on va dire, haut de gamme, mais en ayant une offre de prix démocratique. C'est-à-dire qu'on est en concurrence avec des grandes marques de parfumerie, des grandes marques même qui sont positionnées dans le concept store, donc qui ont une puissance de distribution incomparable. Donc nous, il faut qu'on arrive à se positionner avec une petite fabrication artisanale, avec du bon sens, avec beaucoup de valeur, que cette petite entreprise véhicule, mais en ayant les mêmes responsabilités qu'un industriel. Donc effectivement, quand on a une hausse de prix de matières premières, il faut qu'on soit inventif pour que on ne dise pas à nos clients, on a augmenté nous aussi de 20%. Jusqu'à maintenant, on a réussi à maintenir nos prix depuis la création de cette entreprise. On n'a eu aucune augmentation de prix. On essaye de trouver à chaque fois les meilleures solutions pour que notre clientèle ne soit pas impactée.
Et alors ça passe par comment, par quel type d'invention?
Alors comment déjà, on a mis en place plusieurs méthodes. On a pris le problème par la racine, c'est-à-dire qu'est-ce qui augmente, c'est le verre blanc, c'est les énergies en général. Donc au final, on s'est dit déjà, on va demander à nos clients de ramener les flacons vides. Donc on est reparti sur le système de consigne que nos grands-parents avaient inventé et qui fonctionnait très très bien. Donc aujourd'hui, on a un système de consigne sur nos flacons où les clients reviennent avec les flacons vides et on fait payer que le remplissage du flacon sans refaire payer le flacon. Donc ça, c'est déjà un avantage pour le consommateur parce que lui, ça lui revient moins cher. Au lieu d'acheter à chaque fois un flacon, il garde le sien, il le fait remplir et il utilise le produit qui va dedans.
Et c'est plus durable.
Et c'est beaucoup plus durable. Donc
on peut le faire aussi auprès de vos distributeurs ou c'est plus compliqué à mettre en place?
Oui, c'est un peu plus compliqué à mettre en place.
Ils ne sont pas forcément encore organisés pour ça.
C'est ça. En fait, nous, on préfère on le fait à l'atelier, c'est-à-dire qu'on le fait dans des conditions qui sont adaptées.
Le recyclage, le fait de réutiliser les flacons, donc c'est possible au niveau de votre boutique, mais c'est aussi possible pour les clients de le faire avec vos distributeurs.
Alors effectivement, non, on ne propose pas le remplissage des flacons par les distributeurs parce qu'évidemment ils auraient besoin d'équipement ou de formation. Oui. Donc on fait vraiment le remplissage à notre atelier à Sancoin. Donc il faut que la clientèle se déplace jusqu'à notre parfumerie et notre atelier pour faire remplir leurs flacons. Par contre, pour justement avoir une deuxième solution pour notre clientèle, on propose également le rachat des flacons vides. Donc d'accord. Ça, c'est une autre démarche écologique et économique, c'est-à-dire que sur tout notre positionnement commercial à l'extérieur, quand on est itinérant, on part sur les foires à Bourges, à Moulins, à Nevers, un petit peu partout, on peut nous ramener le flacon vide, et à ce moment-là, on rachète le flacon vide, donc qu'on l'on déduit soit sur un nouvel achat, ou on restitue la somme directement à notre client.
Donc en fait, nos flacons de parfum ont une valeur.
Oui.
Et on peut vous les faire reprendre.
C'est ça.
Quand on achète un parfum d'intérieur. C'est intéressant parce qu'on est dans ce qu'on appelle communément du circuit court, de l'artisanat. Aujourd'hui, on a toujours plein de questions sur ce sujet. Comment faire mieux, comment limiter l'impact des hausses tarifaires au niveau des entreprises. On se rend compte que finalement, on a souvent des initiatives de très petites entreprises, mais qui ont aussi du sens. C'est ce que vous appelez le bon sens paysan.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça reprend aussi, en toute modestie, mais la qualité de notre fragrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retours de notre clientèle, c'est 100% positif. On n'a jamais eu un client qui nous a dit votre produit, il tient pas ou il fait mal à la tête. On a une qualité qui est excellente. Déjà, on n'est pas sur un produit de combustion, donc on se démarque des produits qui peuvent être de qualité moyenne, qu'on trouve un petit peu partout maintenant dans la grande distribution. On est vraiment sur un produit qualitatif, et d'ailleurs nos distributeurs l'ont reconnu. C'est pour ça aussi qu'ils nous contactent pour redistribuer nos produits, parce qu'ils sont convaincus que notre qualité de produit est vraiment adaptée, quoi.
D'accord. Et justement, vous disiez tout à l'heure, on est dans une fabrication très artisanale, et en même temps, on fait peser sur nous des attentes qui sont celles des industriels. Est-ce que vous sentez cette pression, y compris pour vos distributeurs ou pour certains clients, qui aimeraient finalement avoir le confort,
oui,
d'une entreprise de taille nationale, internationale, tout en ayant la qualité d'une fabrication artisanale? L'exigence, elle va à ce point-là?
En fait, moi, je trouve que la difficulté d'une TPE, parce que j'ai géré d'autres activités commerciales avant, donc avec un petit peu d'expérience et de recul, je comprends qu'une TPE, pour une TPE, il est très difficile de se développer, parce que finalement, on est dans un environnement concurrentiel, on est obligé de se positionner sur un marché où il existe déjà des produits qui sont industriels.
Oui.
Donc au final, nous, il faut qu'on arrive à garder la bonne qualité, le bon sens commercial, les bonnes valeurs de notre entreprise, mais en même temps, il faut qu'on soit concurrentiel, mis en concurrence avec des groupes sans le même état d'âme. C'est plus difficile, et pour rentrer un peu plus dans les détails, je trouve, alors après, bon, c'est tout un débat, mais je trouve que les TPE sont, étouffées par les factures en fin de mois, quoi. C'est juste affreux de se dire que on redistribue un peu tout le bénéfice, quoi. C'est assez compliqué, voilà. Il faut vraiment être inventif, se développer, y croire, et puis je vous dis, déborder d'optimisme pour faire avancer la machine. Oui, sinon la
c'est beaucoup plus dur. Mais quand vous dites effectivement les entreprises, les TPE sont étouffées par les factures en fin de mois, c'est parce que en termes de trésorerie, c'est plus difficile qu'une grosse entreprise, ou c'est parce qu'il y a moins d'aide?
Alors, en fait, c'est vrai que nous, on est parti du principe où on n'avait pas l'ambition de demander de l'aide. Mmh. Donc, au final, on n'a pas fait de démarche dans ce sens, tout simplement parce qu'on n'a pas eu besoin d'avoir de l'investissement pour justement notre outil de travail ou les méthodes de commercialisation. C'est-à-dire que j'essaye de travailler, moi, toujours, je paye ce que je peux payer. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas fait de projet d'investissement. Donc, on n'a pas ce poids-là. Maintenant, effectivement, on a quand même des charges assez importantes à assumer. Oui.
Bien sûr, comme toutes les entreprises, c'est vrai que quand on a toutes les charges classiques, ça fait déjà lourd sur une entreprise qui démarre.
Oui, oui, non, mais c'est ça. Notre plus gros problème aujourd'hui, nous, c'est effectivement la trésorerie. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en flux tendu. On investit sur des démarches commerciales. Alors, c'est de l'investissement, évidemment.
Bien sûr.
Mais quand on fait des foires, par exemple, qui sont prévues jusqu'à l'automne de cette année, on est obligé de verser des acomptes, on est obligé de se positionner. Ouais. Donc, on utilise de la trésorerie pour anticiper jusqu'au marché de Noël, par exemple, de 2024. Donc, on est constamment en train de miser, de jouer au poker, hein, de dire, ben là, ça va marcher, là on essaye, mais en même temps il faut aussi qu'on soit concurrentiel sur notre produit, donc pour pas augmenter le prix de vente de nos flacons malgré les augmentations. J'ai dit tout à l'heure, on a inventé deux solutions, enfin en tout cas on a mis en place deux solutions, mais on a aussi on essaye aussi d'acheter en plus grosse quantité, donc on négocie aussi avec nos fournisseurs, mais pour acheter en plus grosse quantité il faut de la trésorerie, donc en fait c'est assez difficile.
Donc en fait vous avez beaucoup d'avances de trésorerie à faire pour pouvoir trouver cet équilibre que vous recherchez, et vaincre les aléas de l'inflation.
C'est ça, parce qu'on se rend compte que 30 jours passent très très vite.
Ça va très vite, effectivement. Jean-Charles Ducrot, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on écoute ?
Je pense qu'on va vraiment retourner aux sources avec Douce France.
Eh bien, c'est très bien. On se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire avec Jean-Charles Ducrot pour la société Souvenirs Parfumés. Jean-Charles, nous allons aborder la dernière partie de notre émission. C'est une partie qui vous est consacrée et j'ai cru comprendre que le chemin de l'entrepreneuriat vous avait pris très très jeune.
Effectivement.
Mais que ça n'avait pas été une autoroute pour vous.
Non, ça n'a pas été une autoroute, effectivement.
Racontez-nous un petit peu ces chemins de traverse que vous avez pris.
Oui, alors je vais essayer de synthétiser quand même, parce que il y a plusieurs années maintenant, mais effectivement, ça a été des chemins inattendus, en fait, des chemins qui sont partis d'une volonté, effectivement, d'entreprendre, d'être indépendant, d'essayer de développer des rêves. Voilà, ça part de ça.
Développer des
rêves, exactement.
Alors, le premier rêve que vous avez développé dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous aviez quel âge ?
J'avais 24 ans. J'avais terminé des études professionnelles dans une école destinée au métier d'art, l'école de Revel, qui est dans le sud-ouest. Donc j'ai appris une formation artisanale, d'abord en sculpture ornementiste, en ébénisterie, j'ai appris la dorure, les arts appliqués, et puis j'ai voulu pousser un petit peu dans le domaine de l'histoire de l'art, de la décoration d'intérieur, et donc j'ai fait un diplôme des métiers d'art. Et à partir de cette formation-là, j'ai travaillé un peu pour une entreprise pendant une petite année en Belgique, dans un cabinet d'architecture, où j'étais un jeune assistant à développer des plans sur ordinateur. Et un beau jour, j'ai fermé l'ordinateur en disant « mais je veux réaliser mes rêves ». Voilà.
D'accord. Et alors ces rêves, ils ont pris forme où et quand ? Parce que vous êtes originaire de l'Allier, vous ?
Moi, je suis originaire de l'Allier, alors dans un petit village qui s'appelle Saint-Léopard-d'Indogy, donc voisin de Le Veurdre.
D'accord.
Donc j'ai grandi toujours entre ces deux villages et finalement limitrophe avec Nevers, avec Sancoin, enfin voilà, Le Cher, la Nièvre. Donc j'ai grandi entre ces trois régions, mon papa étant né à Nevers. Donc voilà.
Donc ça commence en Belgique.
Ça
commençait par les études.
Oui,
dans le sud-ouest. Puis la Belgique, et puis
voilà.
Ensuite.
Et alors ensuite, je suis arrivé sur la Côte d'Azur, à Grasse, en fait. Je me suis installé à Grasse au tout début. J'ai posé mes valises ici. Et puis, je me suis dit, je vais monter un petit atelier de création de mobilier. Donc, c'était ma partie. Donc, j'ai commencé de prospecter pour un local. Et puis, vous savez, quand on est jeune et ambitieux, on n'a pas froid aux yeux. Donc, on se lance tête baissée.
On
ose tout, je pense.
Aujourd'hui, vous ne feriez pas ?
Si, je pense que je le ferai même encore plus.
D'accord. Mais, donc, ce n'est pas qu'une question de jeunesse, en fait, c'est une question d'état d'esprit.
Et puis, on dit que en fait, la chance sourit aux audacieux, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vaincre ses peurs et il faut y aller. C'est-à-dire que les choses ne tombent pas tout seules. Il faut aller.
Rarement,
voilà, il faut aller les provoquer. Et je vous parle de chance parce que ça a été, je me souviens, un élément déclencheur. C'est-à-dire que je suis arrivé sur la Côte d'Azur. J'ai pris un local pour m'installer comme artisan créateur. J'ai réussi à avoir quelques clients de tout genre, de tout style. Je prenais tout en fait. Hein. Il fallait que je fasse tourner ma boutique. J'étais locataire, donc j'avais besoin tous les mois de rentrer de l'argent. Donc je prenais un peu toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Et puis c'est vrai que c'est un peu parti de là. J'avais rencontré dans une petite conférence un soir un chef d'entreprise qui était en retraite et qui avait fait un discours sur l'entrepreneuriat et qui avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que moi j'étais tout jeune, je me lançais, qui avait dit, vous savez, la seule contrainte, la seule difficulté quand on est chef d'entreprise, c'est en fait de vaincre sa peur. Et en fait, c'est juste une question de peur. C'est-à-dire qu'on se crée une peur, et quand on arrive à dépasser cette crainte, on s'aperçoit que tout est possible finalement.
D'accord. Non mais c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer. C'est aussi intéressant de mettre en avant que souvent les freins, ce sont nos propres freins.
Oui.
Finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas tant les démarches administratives. Enfin, souvent les personnes vont dire, oui, mais le marché n'est pas porteur. Où sont les démarches administratives? Mais en fait, finalement, c'est une question de peur et de rester bloqué.
Oui.
Et de pas arriver à trouver les solutions.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut toujours trouver des obstacles. Maintenant, il faut se donner la force de les surmonter. Alors, c'est évidemment vraiment pas facile. C'est évidemment la vie d'un chef d'entreprise. C'est aussi c'est des réussites, puis c'est aussi des défaites. Mmh. Et en fait, c'est là l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on se sert d'une défaite pour mieux réussir. Donc c'est en tombant généralement qu'on arrive à faire mieux. Donc effectivement, faut avoir un peu de cuir hein, sur la peau pour encaisser tout ça. Mais il faut surtout y croire et développer ses rêves.
Alors, on en revient à ce petit atelier. Du coup, il s'est passé quoi après ?
Alors, ce petit atelier, donc j'étais dans les quartiers de Cannes. C'était le Canet. Hein, c'était un quartier un peu populaire,
Il n'était pas sur la montée des marches.
Ouais, voilà. C'était un petit quartier.
On va le résumer comme ça.
Ouais, c'était un peu ça. Et finalement, bon, j'étais installé ici. J'avais monté mon petit atelier. Je fabriquais des pièces un petit peu uniques. Je restaurais aussi des meubles. J'allais faire des prestations de menuiserie. Enfin, j'ai essayé pas mal de petits boulots pour essayer de gagner un peu d'argent. Et puis au final, au bout de 2 ans, j'ai eu une cliente qui était installée sur les hauteurs de Cannes, qui avait un projet de rénovation pour un très bel appartement, qui m'avait demandé de lui dessiner en fait de l'aménagement du mobilier pour son espace salon, pour l'espace chambre. Donc pour moi, ça a été une très belle opportunité. J'ai proposé effectivement des créations. Enfin, au bout de 2 ans, ma première vraie création pour une cliente qui allait me payer à la hauteur de mes idées. Donc j'étais très fier de cet accomplissement. Et au final, cette cliente a été satisfaite de mes prestations. Elle a été ravie en fait de l'originalité que j'ai pu lui proposer. Et elle m'a demandé que je lui ouvre un petit peu mon book de croquis, que je lui présente un petit peu toutes les idées que j'avais en tête, tous mes rêves justement. Et c'est là où s'est déclenchée vraiment la première belle entreprise qui s'appelait LC. CMA, la collection des métiers d'art où en fait cette personne a fait un peu de mécénat pour financer les premières collections, les prototypes en fait de mes collections des pièces artistiques que je voulais présenter. Du coup, ça m'a fait pousser des ailes. Évidemment, j'ai été chercher d'autres fonds avec des contrats où j'ai été chercher des investisseurs un peu partout en France. J'ai été frappé à toutes les portes et j'ai récolté de quoi financer une vraie maison d'édition. Donc j'ai collaboré avec 14 designers à l'époque, avec beaucoup de collections prestigieuses issues des métiers d'art, fabriquées 100% en France avec des artisans d'art, généralement des compagnons, parce que j'exigeais quand même qu'il y ait un savoir-faire un petit peu poussé. Mm-hmm. On a réussi à pousser les portes de très belles galeries d'art, notamment la galerie Fersen qui était à Monaco. On travaillait avec eux, on travaillait avec l'hôtel du Gré d'Albion aussi à Cannes. On avait un espace galerie qui était mis à disposition. On avait plusieurs opportunités commerciales avec des hôtels, avec des galeries d'art, et puis on faisait énormément de vernissages, beaucoup d'expositions éphémères pour présenter les œuvres. Et ça a été un parcours, enfin une expérience dans ma vie magnifique.
Comment on passe justement de ces galeries d'art, de ces métiers d'art autour de l'ameublement, aux fragrances que vous développez aujourd'hui ? Il y a quand même quelque chose qui s'est passé là.
Il y a effectivement. Alors, il faut savoir que même si j'en fais pas trop la promotion aujourd'hui, j'ai gardé quand même cette entreprise de mobilier, de décoration d'intérieur. Disons que c'est pas quelque chose que j'ai enlevé de ma vie. Au contraire, d'accord, je suis en train de repréparer un projet, on va dire ambitieux, par rapport à cette activité commerciale. Par contre, pour en venir à la parfumerie, c'est finalement un retour aux sources. Et c'est la période Covid qui m'a rouvert les yeux sur qui j'étais, d'où je venais. Et en revenant en fait dans le jardin de mes parents pendant la période Covid, parce que finalement je me suis réfugié chez eux.
Beaucoup de gens ont fait ça.
Voilà.
Et on parle beaucoup des Parisiens, enfin ou des personnes qui étaient dans les grandes villes et qui ont voulu retrouver de l'espace et la campagne.
Oui.
Vous étiez dans le sud, vous étiez à Grasse.
C'est ça.
Et pourtant, vous avez senti ce besoin de revenir aux sources.
Ben, c'est ça. J'ai entendu le message de notre cher président. J'étais dans la voiture en me disant, je rentre. Ouais, je rentre à la maison, je vais chez moi. Chez moi, c'est chez mes parents, c'est dans le petit village, c'est à la campagne. Et effectivement, de là, je me suis reconnecté un peu avec mes racines, avec mes forêts, avec les champs, avec mes amis d'enfance, avec tout l'environnement du village. Qui d'ailleurs m'ont accueilli les bras ouverts, en fait. J'ai retrouvé de la sincérité, de l'authenticité chez les individus, et puis aussi malheureusement de la précarité. Donc oui. C'est ce qui m'a un peu ouvert les yeux en me disant mais bon, Cannes c'était magnifique, c'était une très très belle expérience dans ma vie.
Peut-être déconnecté de la réalité.
Un peu déconnecté.
De la vie de tous les jours chez nous.
Oui, c'est vrai que voilà, j'étais plutôt voué à des événements avec beaucoup de paillettes oui. Et au final, quand je suis revenu dans les petits cafés de village, j'ai senti que les projets peut-être à mener auraient peut-être plus de sens ici.
Redonner du sens à sa vie, s'éloigner des paillettes.
C'était un peu ça.
D'accord.
C'était un peu ça, et essayer de, en toute modestie, mais d'essayer de faire revivre certains locaux, certaines activités qui semblent un peu mourantes, quoi, dans nos petits villages. Donc, au final, voilà, je me suis dit, je vais développer une activité commerciale ici. Alors j'ai choisi la parfumerie parce que j'étais dans le secteur de l'habitat, dans le secteur de la décoration d'intérieur. Donc pour moi c'était lié quand même à l'aménagement d'intérieur. C'était apporter un plus, un parfum dans une maison. Et puis tout simplement parce que je voulais représenter des souvenirs. En fait j'avais envie de reconnecter un petit peu à l'authenticité. C'est ce qu'on a compris pendant le Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné on pense que tout va bien, mais on oublie un petit peu les valeurs, l'authenticité. Je pense que la vieille France avait beaucoup de travers, mais avait aussi beaucoup, beaucoup de qualités et beaucoup de valeurs. Et cette démarche de souvenirs parfumés, c'était ça. C'était d'essayer de reprendre confiance avec l'authenticité, avec les bonnes valeurs.
D'accord. Vous avez parlé beaucoup de rêves.
Oui.
Le prochain, c'est quoi pour clore cette émission?
Le prochain, il est... je ne sais pas si je peux vraiment... Je vais en parler comme ça, mais il est ambitieux. Il est ambitieux. Alors oui. Déjà, pour Souvenir Parfumé, on est en très bonne voie. On est en train de se développer. Donc ça, ce rêve-là, j'ai envie de le faire grandir. Donc j'ai effectivement l'ambition de commercialiser Souvenir Parfumé... un peu au-delà des frontières. Je vais essayer de trouver des marchés probablement à l'étranger. Je vais peut-être commencer par l'Europe, mais j'ai déjà des opportunités, notamment avec la Hollande. Donc effectivement, j'ai envie de développer cette activité. Le deuxième rêve, tout simplement de reprendre mes collections, mais de façon encore un peu plus importante, où j'aimerais participer à des grands événements à l'international. Donc je cible l'exposition à Osaka en 2025.
Jean-Charles Ducrot, il nous reste à vous souhaiter donc bonne chance et espérer que cette exposition d'Osaka pourra se faire dans de bonnes conditions. Merci d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'économie du territoire. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.